Les regrets d'un mourant. Première méditation. Le secret d'une vie sainte, active et paisible. Mes bien-aimés dans le bien-aimé du Père, je rends grâces à Dieu qui me permet encore de vous parler en son nom pour votre encouragement et pour ma propre consolation. Mais j'ai besoin que vous usiez avec moi de la patience de Dieu, à qui l'on est agréable selon ce qu'on a et non selon ce qu'on n'a pas. Mes forces qui déclinent ne me permettent ni de me soulever ni de me retourner, et c'est dans cette position seulement que je puis me tenir et vous parler. J'espère le faire assez distinctement pour être entendu de tous. C'est une situation bien particulière que celle d'un homme qui, pendant un certain nombre de mois déjà, et peut-être pendant un temps encore dont il ne peut mesurer la durée, vit constamment dans la pensée que ses liens avec la vie ont été rompus, qu'il est frappé de Dieu incurablement et mortellement, et qu'il ne sait pas à quel moment la voix paternelle le rappellera dans son sein. Il faudrait qu'il fût bien insensible ou bien irréfléchi et bien privé de tout sentiment chrétien pour ne pas jeter un coup d'œil sur sa vie passée. Et en même temps, comme des pensées de guérison montent aussi et doivent monter dans son âme, parce qu'après tout, il est dans les mains de Dieu qui ressuscite les morts et qui en a ressuscité de plus morts que lui, il est porté à se demander « Si la vie m'était rendue, quel usage en ferais-je » et tout en se rappelant la faiblesse et la fragilité de ses résolutions qu'une vie entière lui a démontrées, il espère pourtant de la bonté de Dieu qu'une telle visitation n'aura pas été perdue pour la seconde partie de sa carrière et de son ministère. Je me dis alors, voici telle chose que je voudrais faire, et il n'en est aucune assurément que je ne voulusse faire autrement et mieux que je ne l'ai faite. Et il y a une humiliation salutaire pour moi, comme il peut y avoir une instruction salutaire pour vous à considérer ces regrets d'un homme qui est mourant ou qui se croit mourant, et qui se représente le nouvel usage qu'il voudrait faire de la vie si elle lui était rendue. C'est plus spécialement sur ces pensées que je me propose de diriger mes allocutions, et pour choisir tout de suite un exemple particulier, voici un point sur lequel, si j'avais à recommencer, je voudrais apporter dans ma vie, je parle de ma vie intérieure, un changement considérable. Il va sans dire que les applications intimes du principe que je viens de poser sont réservées au Seigneur. Mais il y a pourtant d'autres applications d'un caractère plus général et qui peuvent sans inconvénient être traitées dans une petite réunion comme celle-ci, par exemple la prière, la lecture de la Bible, la liberté chrétienne. Voici un point qui me frappe. Je regrette d'avoir trop réglé ma vie sur mes propres plans. J'entends sur mes plans de fidélité et de sanctification chrétienne, et pas assez simplement sur le plan que le Seigneur déroule pour chacun de nous devant nous. Je crois qu'il me sera facile de faire comprendre ma pensée en quelques mots, et tout enfant de Dieu y entrera immédiatement. Nous sommes portés à nous faire un certain idéal de la vie chrétienne, de l'activité chrétienne et du ministère chrétien, et à rattacher à cet idéal certains plans et certaines méthodes, de telle manière que nous ne nous contentons que si nous parvenons à les réaliser, et ainsi il importe de faire les plans les meilleurs possibles et de chercher la meilleure méthode pour les exécuter. Tout cela est bon, sans doute, mais au fond de tout cela, il y a un défaut. C'est le moi caché qui est enraciné au fond du cœur et qui paraît trop dans nos œuvres les meilleures et les plus pures. Tandis que ce que je voudrais faire, ce serait de prendre le plan de ma vie et de ma conduite journalière, non pas dans mes idées et dans mes sentiments, mais dans les commandements de Dieu, dans ses témoignages intérieurs, dans la conduite de son esprit et dans les directions extérieures qu'il donne à notre vie. On comprendra parfaitement ma pensée sur la manière dont je voudrais régler ma vie si l'on considère la manière dont Jésus a réglé la sienne. Nous ne trouvons pas chez Jésus ces plans, ces méthodes qui ont tant occupé beaucoup de gens de bien et qui souvent les ont tant tourmentés et leur ont pris un temps considérable qu'ils auraient pu mieux employer. Mais que trouvons-nous? Nous trouvons un homme, je le considère ici comme fils de l'homme, qui ne se propose autre chose que d'accomplir la mission qu'il a reçue du Père et qui n'a d'autre plan que d'entrer dans le plan du Père. En sorte que, les yeux fixés sur le Père, il n'est occupé que d'écouter sa voix pour la suivre et de discerner sa volonté pour l'exécuter. Les bonnes œuvres de Jésus-Christ lui sont toutes données l'une après l'autre, étant toutes mises par la main de Dieu devant lui, sur son chemin, et se suivent si naturellement, naissent si facilement les unes des autres, qu'elles ne s'enchevêtrent jamais, même dans les jours les plus occupés de son ministère. Dans un jour, par exemple, comme celui qui nous est décrit dans le chapitre 9 de saint Matthieu, où il appelle un de ses apôtres, guérit des malades, ressuscite un mort, et en passant, délivre une femme malade depuis plusieurs années, sans compter les autres bienfaits qu'il répand de toutes parts sur sa route, il n'y a pas un instant d'embarras ou d'hésitation, ni pour la manière de placer ses œuvres, ni pour le temps à donner à chacune d'elles, parce que Jésus-Christ suit tout simplement le plan de Dieu et que Dieu se charge de le conduire. Lorsqu'il y a cet accord parfait avec la volonté de Dieu, il y a aussi du côté de Dieu une clarté parfaite pour nous conduire. Ainsi se réalise une parole admirable et profonde du Saint-Esprit : « Nous sommes créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous marchions en elles. » Où les bonnes œuvres nous sont présentées, non pas comme un chemin que nous ayons à nous faire à nous-mêmes, mais comme un chemin que Dieu a fait et dans lequel il ne s'agit plus que de marcher. C'est le chemin de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Il n'y a qu'à suivre ce chemin, et nous ferons de moment en moment la volonté de Dieu. Si j'ai fait comprendre, autant que je le pouvais, avec si peu de développement, ce que je voudrais avoir fait, et ce que je souhaite de faire si la vie m'était rendue, il sera facile de faire saisir combien cette conformité avec le plan de Dieu offre davantage sur l'observation des plans personnels, même les meilleurs. J'ajoute en passant que ma pensée n'est pas de décourager les plans personnels, que nous devons chercher à rendre les meilleurs possibles. Je crois que notre infirmité a besoin de cet appui, pourvu que nos plans personnels soient toujours subordonnés à la pensée générale de ne suivre que la volonté de Dieu. Eh bien, pour m'arrêter à deux ou trois idées principales, cette voie dont Jésus-Christ nous donne l'exemple est d'abord une condition de sainteté. Qu'est-ce qui constitue le péché pris dans son essence intime? C'est la recherche de soi-même, la confiance en soi-même, la volonté propre, la justice propre, la gloire propre et tout ce qui se rapporte à nous personnellement. Ainsi, des désirs de bien faire et de faire même la volonté du Seigneur, qui s'appuient sur des plans et des projets formés en nous-mêmes, participent inévitablement par quelque côté à la racine du péché. Tandis qu'au contraire, l'essence même de la sainteté, étant l'union de notre volonté avec la volonté divine, c'est lorsque nous n'aurons d'autre plan que celui de Dieu ou d'autre volonté que la volonté de Dieu, c'est alors que nous serons dans une sainteté vraie, dans une sainteté qui n'aura pas seulement une apparence extérieure, mais qui aura un caractère intérieur, dans une sainteté semblable à la sainteté de Jésus-Christ. La sainteté de Jésus-Christ suit et dépend du principe que j'exposais il y a un moment, c'est-à-dire l'abandon constant à la seule volonté de Dieu, manifestée au-dedans par le témoignage de son esprit, au-dehors par les déclarations de sa parole et par les signes de sa providence. Jésus-Christ est saint parce qu'il ne veut que ce que Dieu veut, parce qu'il ne cherche pas sa gloire, mais celle du Père. Là a été la puissance de sa sainteté. C'est donc une condition de sainteté que cette conformité avec le plan de Dieu. C'est en même temps une condition d'activité. On perd un temps prodigieux lorsqu'on se cherche soi-même, même dans le bien. On considère, avec raison, combien facilement on peut se tromper. On se livre à des réflexions et à des considérations infinies. Et combien d'hommes ont reconnu, à la fin de leur carrière, qu'une partie considérable de leur vie avait été employée à former des plans qu'il aurait été bien plus utilement à l'œuvre du moment présent et dans l'intérêt des autres. Voyez quelle activité le plan de Jésus-Christ que je vous citais il y a un moment lui communique. Dans le chapitre 9 de saint Matthieu et ailleurs, les bonnes œuvres sont jetées à pleine main, non pas les unes sur les autres, mais les unes après les autres, et il n'y a pas de limite à une activité fondée sur cet accord complet avec la volonté de Dieu, l'action de l'homme devenant alors une action divine, et la vie devenant comme une vie divine au sein de l'humanité, en qui s'accomplit quelque chose de la force de Dieu. Nous n'avons pas d'idée de ce que nous pourrions faire si nous étions complètement perdus dans cet accord complet avec Dieu, si nous ne cherchions pas d'autre volonté que la sienne, si nous n'avions pas une parole de notre bouche, pas un battement de notre cœur, pas une pensée de notre intelligence, pas un mouvement de notre esprit ou de notre corps qui ne fût tourné vers lui pour l'attendre, dans l'esprit de Samuel. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Quelques hommes ont montré ce qu'un homme peut faire. Un Luther, un Calvin, un saint Paul, un Moïse. Ces hommes-là ont montré ce qu'un homme peut faire quand il ne cherche que la volonté de Dieu. Jésus-Christ a fait bien plus, parce qu'en lui seul, la conformité de sa volonté avec la volonté divine a été parfaite. C'est donc une condition d'activité et d'une activité presque sans limite. Cependant, il y en a, puisque Dieu ne demande pas de ses créatures plus que ce dont elles sont capables. Enfin, et je finis par là, c'est une condition de paix. Il n'y a point de paix pour l'homme qui prend son point de départ en lui-même. Il y a toujours lieu de craindre qu'il se trompe. Il est troublé, et souvent dans l'erreur, parce que la volonté et l'intérêt humain sont sujets à beaucoup d'erreurs. Il n'a point de repos, il s'agite, il se tourmente, et inspire une compassion profonde à celui qui, voyant le pur désir qu'il a de glorifier Dieu, voit en même temps combien il accumule lui-même d'obstacles sur son chemin, par son défaut de simplicité. Tandis qu'au contraire, lorsque nous ne regardons qu'à Dieu seul, nous nous déchargeons sur lui de tout notre fardeau, et il nous soutiendra. Il y a plus. Si mes projets sont pris en moi-même, ils peuvent être inexécutables. Je voudrais suivre une carrière, mais il faudrait faire des dépenses auxquelles je ne puis pourvoir. Je voudrais être peintre, et la vue me manque. Orateur, et je n'ai pas d'organe. Chirurgien, et la main me tremble. Voilà ma carrière manquée, ce dont je ne pourrai jamais me consoler. Mais il ne saurait y avoir de carrière manquée si mes projets sont pris dans le plan de Dieu à mon égard. Car alors, cette impossibilité même où je me trouve de faire ce que je m'étais d'abord proposé, me prouve que ce n'est pas ce à quoi Dieu m'appelle. Et les infirmités même qui m'arrêtent sont autant de lumières par lesquelles Dieu me révèle mon œuvre véritable. Si nous agissons dans cet esprit, je le dis avec un profond respect, notre œuvre est l'affaire de Dieu plutôt que la nôtre, son œuvre et non la nôtre. Et l'activité, l'action personnelle que Dieu demande toujours de nous ne consiste qu'à le suivre dans une obéissance fidèle et abandonnée. Là, nous trouverons une paix profonde. Dieu ne peut pas nous égarer. Souvent, nous sommes agités par la pensée que nous ne faisons pas assez, ou que nous faisons mal, ou que nous ne faisons pas l'œuvre que Dieu nous a donnée à faire. Je me souviens en particulier combien pendant les premières semaines qui ont suivi la déclaration des médecins, j'ai été troublé par la pensée que mon œuvre n'était pas faite. Par la grâce de Dieu, j'ai été délivré de ces pensées, parce que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de mon œuvre, mais de celle de Dieu. Et j'ai reconnu que, par les souffrances mêmes et les afflictions qu'il m'a envoyées, et par l'espérance de la vie éternelle qui doit leur succéder, le Seigneur me fait exercer un autre ministère, probablement plus important que celui que je m'étais proposé, et en tout cas plus sûr, parce qu'il me vient plus directement de la main de Dieu, qui me contraint miséricordieusement à marcher dans cette voie pour son service et pour sa gloire. C'est alors que nous pourrons dire, comme Jésus-Christ mourant, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Pourquoi a-t-il pu dire cela? Parce qu'il ne cherche qu'à faire l'œuvre de Dieu, et Dieu le retire comme on cueille un fruit mûr quand sa mission est achevée. Eh bien, nous aussi ne cherchons qu'à faire l'œuvre que le Père nous a donnée à faire, et remettons-nous entre ses mains. Nous aussi, si nous sommes fidèles, nous ne serons retirés que quand notre œuvre sera faite. À Dieu seul, il appartient de décider quand l'œuvre qu'il veut faire par nous est achevée. Elle pourra être bien imparfaite, bien incomplète aux yeux des hommes, mais enfin le Seigneur ne permettra pas, si nous sommes droits devant lui, que notre vie se passe sans laisser de traces sur la terre. Il ne nous retirera que quand notre œuvre sera faite devant lui, et nous pourrons dire alors, après le Seigneur, dans un esprit d'humilité, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Vinet le disait sans le savoir, quand il donnait sa dernière leçon de théologie sur ses paroles, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Et ce qui s'accomplissait en Vinet s'accomplissait en même temps en Rocha et s'accomplit dans tous les serviteurs de Dieu. Il y a une grande paix à ne chercher son plan qu'en Dieu et à le suivre en renonçant à soi-même, et il n'y a de paix que là. Ainsi, appliquons-nous à ne chercher notre plan qu'en Dieu seul. Ceux qui sont rappelés pour s'humilier et ceux qui vivent pour croître dans la grâce. Appliquons-nous, dans cet esprit, à suivre Jésus-Christ dans son Gethsémané et à tenir les yeux constamment fixés sur la volonté du Père. Ce sera pour nous, comme cela a été pour Jésus-Christ, une condition de sainteté, une condition d'activité et une condition de paix profonde. C'est cette paix que je vous souhaite, et je serais bien heureux si je pouvais penser que ces quelques réflexions eussent excité ceux qui ont encore devant eux le temps, la vie, la force, à en user si fidèlement, si simplement, pour glorifier Dieu à l'exemple de leur Sauveur, qu'ils puissent dire à leur tour « J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire » et qu'ils puissent se passer dans une paix profonde le reste de leur vie terrestre, en attendant qu'ils soient rappelés de ce monde au Père par la grâce du Seigneur, par la vertu et l'onction du Saint-Esprit.